Il est 22h, bonsoir à tous. Jacques Chirac repose maintenant au cimetière du Montparnasse à Paris après une cérémonie à l'église Saint-Sulpice où s'est rendu notre reporter Rosalie Lafarge. Édouard Philippe est à Rouen ce soir, mais les inquiétudes demeurent après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et s'il y avait un risque de pollution à l'amiante? Série noire dans le monde de l'aviation, XL Airways supprime tous ses vols à partir d'aujourd'hui. Nous serons avec Loïc Tribolaspierre, spécialiste de l'aviation. Et la République populaire de Chine se prépare à son 70e anniversaire, un anniversaire conçu comme une démonstration de force. Les Français ont fait leurs adieux aujourd'hui à Jacques Chirac, décédé jeudi dernier. Un hommage public a eu lieu cet après-midi en l'église Saint-Sulpice, en présence de 2000 invités venus du monde entier. Dans l'assemblée, beaucoup de chefs d'État étrangers, Vladimir Poutine par exemple, et l'ancien président américain Bill Clinton. Assis au premier rang, trois anciens présidents français, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing, Rosalie Lafarge. La classe politique française était largement représentée pour cet hommage à Chirac.
Un homme chaleureux, aussi à l'aise dans les salons de l'Élysée qu'au salon de l'agriculture, ces mots sont ceux de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, qui a célébré la cérémonie. Et cet amour des gens, c'est aussi ce que veut retenir le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Chaque fois qu'on parle de lui, il y a cette double dimension, c'est-à-dire l'homme extrêmement chaleureux, mais aussi la dimension d'homme d'État, que vient souligner la présence de très nombreux chefs d'État et de gouvernement. Quand on dit au revoir à un ancien chef de l'État, on doit être unis autour de cela.
Dans cette union, beaucoup de ministres et d'anciens ministres, l'ex-chef du gouvernement Manuel Valls.
C'est un président si français, donc il y a beaucoup d'émotions et à travers lui, je crois que les Français se reconnaissent.
Les Français qui rendent hommage en nombre depuis sa mort à Jacques Chirac, note le président du Modem, François Bayrou.
J'ai été très frappé, moi, par ce besoin des Français de se rassembler, ce besoin de communion.
Et cela doit nous amener à réfléchir, souligne le haut-commissaire aux retraites chiraquien historique, Jean-Paul Delevoye.
Nous entendions dans la cathédrale les applaudissements du public. Je crois que maintenant, il faut regarder pourquoi le peuple français a raisonné comme ça. Et l'on voit bien que les Françaises et les Français ont besoin d'être aimés, ont besoin d'être reconnus.
Le cercueil de Jacques Chirac a quitté l'église Saint-Sulpice comme il y est entré, sous les applaudissements nourris d'une foule massée sur le parvis.
Un reportage de Rosalie Lafarge. Et à Tulle, en Corrèze, la région d'élection de l'ancien président de la République, des centaines de personnes ont assisté à cette messe, à une messe en son hommage ce soir. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu à Rouen ce soir, 5 jours après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Sur place, il a reconnu que les odeurs qui flottent dans la ville sont gênantes, mais il a tenu à rassurer. Il insiste, elles ne sont pas nocives. Pour lui, la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause. Mais le risque de pollution à l'amiante a-t-il été minimisé après l'incendie? L'Andeva s'en inquiète. L'Andeva, c'est l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Elle compte d'ailleurs déposer plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, car non seulement le site qui a brûlé stocker des produits dangereux, mais en plus sa toiture était en fibro-ciment, c'est-à-dire des fibres d'amiante enrobées de ciment. Leur combustion représente un véritable danger, selon Alain Bobbio, secrétaire national de l'association.
Lorsqu'elles sont soumises à un incendie d'une extrême violence, ces toitures explosent littéralement et dispersent dans tous les coins des petits morceaux de toiture. Ce processus-là sépare les deux composants de la toiture, c'est-à-dire d'une part les fibres cancérogènes et d'autre part le ciment. Et les fibres cancérogènes qui sont extrêmement légères, elles sont 400 fois plus fines qu'un cheveu, elles sont invisibles à l'œil nu. Ces fibres sont prises dans des courants d'air chaud ascendants, très puissants, qui les emmènent bien au-dessus du brasier. Et ensuite, il leur arrive à peu près la même chose qu'aux suies. On a retrouvé des suies très loin du foyer. Les fibres d'amiante ont suivi exactement le même trajet. Et on a surtout dans le brasier ce qu'on appelle des cocktails chimiques. Et ces cocktails chimiques, ils ont des propriétés cancérogènes qu'on pourra constater dans 20 ou 30 ans. La gravité de la situation ne peut pas s'apprécier simplement par quelques mesures au niveau du sol pour l'amiante, et elle ne peut pas s'apprécier simplement par la toxicité immédiate sans tenir compte des effets différés de produits cancérogènes.
Alain Bobbio au micro de Florence Turm. Un mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende pour Jean-Jacques Urvoas. L'ancien garde des Sceaux a été condamné pour violation du secret professionnel. La Cour de justice de la République lui reproche d'avoir transmis au député Thierry Solaire, il y a 2 ans, des informations sur une enquête le concernant. Et les turbulences continuent dans le secteur aérien. La compagnie low-cost XL Airways vient d'annoncer la suppression de tous ses vols à 2 jours d'une décision de justice sur une éventuelle reprise ou sur une liquidation. Bonsoir Loïc Tribolaspierre.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général au Centre d'études et de prospectives stratégiques, spécialiste du secteur aérien. Expliquez-nous, qu'est-il arrivé à XL Airways ?
XL Airways, c'est tout d'abord le fait d'une compagnie qui s'est développée avec une insuffisance, je dirais, biologique. En l'occurrence, une sous-capitalisation ne lui permettant pas de faire les investissements d'avenir et surtout de savoir évoluer dans un univers hyper concurrentiel et surtout dans un contexte où le cours du kérosène ne cesse d'avoir des effets yo-yo. Donc c'est au départ une sous-capitalisation, puis après ça des erreurs stratégiques, une diversification sur un certain nombre de destinations, et puis la mauvaise appréhension et compréhension d'un univers de plus en plus concurrentiel. Donc c'est la somme de ces ingrédients qui amène au fait que XL Airways aura les ailes pliées.
Et justement, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé samedi qu'il allait saisir la Commission européenne. Il accuse la compagnie aérienne norvégienne de concurrence déloyale grâce à des aides publiques. Est-ce vraiment cette concurrence de norvégienne qui a fait couler son concurrent ?
Je pense que le ministre Bruno Le Maire est dans son jeu de rôle. Il faut toujours trouver un bouc émissaire. De là à saisir la Commission pour des aides déguisées, je dirais à voir. Si la seule cause, notamment de la disparition d'XL Airways, c'est la compétition déloyale de Norwegian Airlines, ça prouve que le modèle économique d'XL Airways était assez faible. Donc si c'est seulement une compagnie qui a contribué au désastre, c'est très inquiétant comme interprétation.
Mais est-ce que Norwegian Airlines bénéficia effectivement d'un avantage sur le marché grâce aux aides du gouvernement norvégien ?
Il faudrait d'abord savoir quelle est la nature de ces aides. Que peut-on dire à ce moment-là pour Ryanair et autres qui ont pu bénéficier à certaines époques d'avantages non négligeables d'autorités décentralisées publiques. Donc je me garderai bien d'ouvrir cette boîte de Pandore. J'espère que le ministre a en la circonstance des éléments bien retaillés, mais il est évident que si même c'était le cas, je ne pense pas que la seule compétitivité de Norwegian soit la cause de la disparition d'XL Airways.
Le dirigeant de XL Airways, Laurent Magnin, avait demandé de l'aide à Air France, qui a refusé de reprendre la compagnie low cost. Est-ce qu'Air France a eu raison de ne pas sauver XL Airways ?
Alors, soulignons que c'est toujours extrêmement dramatique, c'est pas évident. Ce dirigeant fut exemplaire dans ce qu'il a essayé de faire, mais il y a le jeu de la concurrence, il y a le cours du kérosène, il y a la faible capitalisation, comme je le soulignais. En l'occurrence, Air France pouvait reprendre. Mais Air France, ce n'est pas l'assurance sociale de l'aérien. Ce n'est pas parce que la compagnie s'appelle Air France qu'elle devrait répondre et racheter tout ce qui est d'origine française. Cette compagnie, d'abord, a assuré sa propre survie et son propre développement économique. Force est de reconnaître que les activités, notamment d'Air France, entre autres sur l'environnement hexagonal, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit infiniment rentable. Donc Air France a veillé à son développement et on s'est aperçu dès ces dernières années que la rentabilité n'était pas totalement au rendez-vous. Donc c'eût été sans doute une grave erreur que d'allonger ou de poser ce poids pour la compagnie, parce que on demandait, certes de reprendre les fameux créneaux, mais on lui demandait d'éponger la dette, on lui demandait de reprendre les salariés, et on sait que Air France essaie de revoir à la baisse ses effectifs. Donc la réponse et la solution à Air France n'était pas la bonne, et Air France n'avait pas les moyens de se mettre entre guillemets en danger dans un contexte compétitif assez rude.
Et justement, pour en revenir à ce contexte compétitif que vous évoquez, on a le cas d'Aigle Azur il y a quelques semaines, XL Airways maintenant, mais les deux entreprises françaises ne sont pas les seules. Aujourd'hui, il y a aussi l'entreprise slovène Adria Airways qui dépose le bilan. Est-ce qu'on est au début d'une série noire pour l'aérien européen ?
On est au début d'une série noire pour l'aérien. Vos propos sont tout à fait justes. Le secteur de l'aérien va connaître, une forte déflation au niveau, je dirais, de ses compagnies. Alors, il y a toujours ce judicieux paradoxe de dire, le nombre de passagers augmente, mais la compétition est rude, il y a trop d'acteurs et des prix ont été bradés. Donc, ce qui fait que ça s'en ressent. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, Emirates avait des résultats qui étaient en berne, la grande compagnie. Donc, pourquoi voulez-vous que des toutes petites compagnies qui soient dans le secteur low cost, qui se font d'ailleurs une guerre acharnée, puissent effectivement s'en sortir alors que des majeurs sont à la peine?
Merci Loïc Tribolas-Pierre. Je le rappelle, vous êtes délégué général au Centre d'études et de prospectives stratégiques, spécialiste du secteur aérien. La République populaire de Chine fête demain le 70e anniversaire de sa fondation. Ce sera l'occasion de festivités géantes et surtout d'un défilé militaire à Pékin, présenté comme le plus important jamais organisé. 15 000 soldats et officiers vont défiler pendant 80 minutes, avec leurs équipements, leurs avions, leurs chars. Dominique André, la Chine va en fait montrer ses muscles demain.
La plus grande armée du monde compte environ 2 millions d'hommes et de femmes. Le budget est le deuxième au monde avec officiellement 156 milliards d'euros, soit 4 fois inférieur à celui des États-Unis. Xi Jinping a lancé une réforme de l'APL pour la professionnaliser. Le président chinois veut des forces armées prêtes au combat. Un programme de rattrapage a été engagé pour les porte-avions, les avions de chasse, les missiles balistiques aux capacités sans précédent, selon un rapport français. Le missile DF-41, jamais présenté au public, pourrait être montré demain. Selon l'étude de la Fondation de la Recherche Stratégique, il peut être armé de missiles pouvant couvrir l'ensemble du territoire américain. Des photos d'équipements bâchés vues à Pékin lors des répétitions du défilé laissent à penser que d'autres avancées technologiques seront présentées, comme des ailes Delta munies de charges qui peuvent déjouer les systèmes antimissiles. Vous ne serez pas déçus, a promis à la presse le général Tan Min.
Les explications de notre correspondante à Pékin, Dominique André. Et les festivités de demain pourraient être éclipsées par la situation à Hong Kong, alors que les manifestants envisagent de protester dans les rues demain. Leur mouvement de protestation contre Pékin dure depuis maintenant plus de 4 mois. Le Soudan se rapproche peut-être d'un processus de paix au Darfour. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a rencontré en France le chef d'un des principaux groupes rebelles. D'après le dirigeant soudanais, ils ont eu une profonde discussion sur les racines de la crise et leurs possibles solutions. Le conflit au Darfour, toujours en cours depuis plus de 16 ans, a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Le gouvernement grec veut renvoyer 10 000 migrants en Turquie d'ici la fin de l'année 2020. Une décision prise en Conseil des ministres aujourd'hui, juste après le drame qui a secoué l'île de Lesbos hier. Un incendie a fait 1 mort et 17 blessés dans le camp de migrants de la Moria. Le drame a été suivi d'émeutes dans ce camp surpeuplé. Il abrite plus de 12 000 personnes. Cécile de Kervas-Doué, les ONG et les représentants de l'ONU exigent du gouvernement des mesures d'urgence.
Depuis juillet dernier, près de 11 000 réfugiés sont arrivés à Lesbos, du jamais vu depuis 4 ans. 200 personnes par jour traversent en ce moment depuis la Turquie où 4 millions de réfugiés sont bloqués. Pour endiguer cet afflux, le nouveau gouvernement grec, aidé du Haut Commissariat de l'ONU et des moyens financiers de l'Union européenne, tente de transférer ces personnes vers des camps de transit sur le continent. Mais ça ne va pas assez vite, s'inquiète Astrid Castelin, chef du bureau du HCR de l'ONU à Lesbos.
L'urgence, c'est qu'il faut en effet diminuer le nombre de personnes sur les îles. Tous ceux qui sont autorisés à voyager, il est important qu'ils soient transférés au continent. Parce que surtout, il y a à peu près 8000 personnes qui logent sous tente. On s'approche de l'hiver et donc les conditions pourraient devenir encore plus critiques une fois qu'il va commencer à pleuvoir et faire froid. Et il faut dire aussi que la population est composée de 43% d'enfants. On demande aussi plus de solidarité de la part des États membres de l'Union européenne à travers des actions concrètes comme rétablir la relocalisation en commençant par les mineurs non accompagnés.
Mais ces mesures de relocalisation, l'Union européenne les a suspendues depuis 2017. Alors dans le camp de Moria, près de 1000 enfants non accompagnés vivent dans des conditions de plus en plus précaires.
Les explications de Cécile de Kervas-Doué. La justice marocaine a condamné aujourd'hui une journaliste à 1 an de prison ferme. L'étor de Hajar Raïssouni, c'est son nom, avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. L'affaire a causé l'indignation dans le pays. La semaine dernière, des centaines de femmes marocaines ont publié un manifeste où elles se déclaraient elles aussi hors la loi. Elles y dénonçaient une législation qu'elles jugent obsolète. Depuis début septembre, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal pour apporter le soutien à la journaliste. Et le temps sera pluvieux demain matin sur toute une moitié de la France. À l'ouest, dans un grand axe qui ira des Landes jusqu'au Bas-Rhin. Dans l'après-midi, le mauvais temps régnera sur l'ensemble de l'Hexagone. La foudre est attendue dans les Hauts-de-France, la Picardie, les Pyrénées-Orientales. Attention à la grêle aux alentours de Lyon. Il fera 17 à Brest, 19 à Guéret, 20 degrés à Paris et à Morteau, 25 à Perpignan et 26 degrés à Grenoble.